RCF.
Aimer le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, écrivait François de La Rochefoucauld, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Véronique Allieu.
Vous êtes géographe et historien. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Diderot. Vous travaillez sur l'histoire de la mondialisation et de la représentation du monde. Vous vous intéressez à tout un tas de sujets dont certains pourraient paraître tout à fait anecdotiques, comme l'histoire du petit déjeuner auquel vous venez de consacrer un livre paru chez Armand Collin. Ça s'appelle « Le monde n'en notasse, trois siècles de petit déjeuner ». Avec vous, nous allons retracer un de ces sujets qui peut paraître anecdotique, mais qui en dit finalement très long sur l'histoire des hommes, l'histoire de la géopolitique, l'histoire des mœurs. Il s'agit du chocolat. Vous le traitez d'ailleurs en partie dans ce livre consacré à l'histoire du petit déjeuner. J'aimerais savoir, pour commencer, en quoi ce type de sujet, pour l'universitaire tout à fait reconnu que vous êtes, quel intérêt il présente et pourquoi aimez-vous aborder l'histoire des hommes sous ces angles-là un peu inattendus ?
Le chocolat est l'une des trois composantes liquides du petit déjeuner, avec thé, café et chocolat. Donc, si j'ai fait ce livre qui est destiné à un public large, c'est pas du tout un livre universitaire, c'est parce que c'est une manière d'aborder la question de la mondialisation. Le thé, le café et le chocolat ne poussent pas dans les régions tempérées, le chocolat en particulier, et donc ça vient de loin. Et ça vient de loin depuis quand ? C'est depuis ce qu'on a appelé les grandes découvertes au 19e siècle, depuis le 16e siècle en gros. Et ça s'est imposé au 18e, au moment où ce repas nouveau apparaît qu'est le petit déjeuner. Il s'agit d'une pratique toute quotidienne. Le premier repas du matin, la rupture du jeûne, le déjeuner, c'est quelque chose dans lequel qu'on a organisé autour de boissons dopantes à partir du début du 18e et en particulier au 18e siècle, le chocolat.
Le thé, le chocolat et le café ont des destinées assez semblables, assez parallèles, ou bien chacun a vraiment connu un sort qui lui est propre ?
Alors, ce sont trois plantes originaires de trois parties du monde totalement différentes, puisque le café est africain et a été domestiqué par les Arabes au Yémen. Le thé est chinois et le chocolat est américain. C'est une plante qui porte un nom, Nahuatl, c'est-à-dire la langue des Aztèques, le Cocoalt, qui lui-même vient du mixélogue, c'est-à-dire une langue qui était parlée par les Olmèques avant notre ère. Car la plante, le cacaoyer, qui est d'origine d'Amazonie, a été domestiquée en Amérique centrale il y a 3 à 4 000 ans. On a des traces de poterie olmèque avec des traces de théobromine, qui est une substance qui est dans le chocolat.
Les archéologues ont retrouvé ces traces-là, en creusant, en fouillant.
Tout à fait. On a alors des traces tout à fait nettes chez les Mayas, dans des cités mayas comme Tikal, des cités du 5e siècle de notre ère cette fois-ci, où on a tous les ingrédients du chocolat qui sont dans un récipient, qui nous montre que ces populations avaient inventé non seulement la domestication de la plante, mais également toute cette technique complexe qui consiste d'une cabosse, du fruit, du cacaoyer, à extraire des graines que l'on va broyer, griller, après les avoir fait fermenter et sécher. C'est tout un travail qui nécessite évidemment des siècles et des siècles d'adaptation pour aboutir à cette boisson qu'ils appelaient Cocoalt et qui, pour les conquistadors, pour les premiers Européens qui les ont rencontrés, était une boisson assez dégoûtante.
Pourquoi ?
Ben, d'abord, il ne faut pas oublier qu'en Amérique, il n'y avait pas de sucre et qu'on va véritablement parler de chocolat quand, au milieu du XVIe siècle, on associera cette plante d'origine indienne, mais que les conquistadors avaient apporté avec eux, la canne à sucre, et qui va très bien pousser aux Antilles, on va l'associer avec le cacao. Et c'est là que ça donne cette boisson au départ, parce que la forme solide n'apparaît qu'au XIXe siècle, ça donne cette boisson qui, pour nous, va être merveilleuse et qui aura assez rapidement un succès.
D'ailleurs, c'est sous quelle forme, à ce moment-là ?
On leur offre soit sous forme de cabosse, parce que c'était une richesse, c'était un bien qui servait un peu de monnaie d'ailleurs en Amérique centrale, en tout cas qui pouvait donner des offrandes. Lors de son troisième voyage, on en offre à Colomb et très vite il les balance à la mer, il n'en voit absolument pas l'intérêt. Et puis on leur offrira la boisson, c'est sans doute Cortés, le conquérant du Mexique, qui va connaître cette boisson le premier. Et ce liquide épais, marron foncé, à l'odeur qui leur semblait désagréable, pour eux c'était de la coprophagie, pour rester poli. Et on retrouvera encore des gens, par exemple des pirates hollandais en 1630 qui arraisonnent un bateau espagnol, rencontrent des cabosses de cacao et les jettent à la mer disant c'est des crottes de bique.
Ça a un goût très amer.
C'est très très amer, d'autant plus, alors c'était d'autant plus curieux que les Amérindiens les additionnaient d'un autre produit local qui est le piment. Donc ce chocolat très amer et ce piment, c'était effectivement quelque chose de très bizarre. Mais avec le sucre et sans le piment, mais en gardant éventuellement un autre produit américain qui est la vanille, là, les Européens, les Espagnols d'abord, s'en sont entichés très vite.
RCF, la suite de l'histoire.
Les Espagnols le ramènent en Europe.
Oui, la première cargaison commerciale arrive à Séville en 1585, donc à la fin du XVIe siècle. La première fois qu'une cabosse et même du chocolat râpé a été apportée en Espagne, c'est Cortés qui l'a rapporté, mais ça n'a pas eu de succès. Donc c'est seulement quand ça devient une boisson à la mode aux Antilles, chez les colons, qui étaient très peu nombreux, puisque ça peut traverser l'Atlantique avec un rôle important des ordres religieux, puisque ce sont dans les couvents qu'on va consommer d'abord du chocolat. Et c'est probablement, dit-on, les carmélites de Oaxaca qui auraient fait ce mélange sucre-cacao pour la première fois.
Pourquoi est-ce qu'elles le consomment ?
Le chocolat va très vite avoir le statut d'être un aliment maigre, ce qui diététiquement est un peu faux.
Ça comprend de l'huile, hein.
Ah, oui, ce qu'on évidemment appelle le beurre de cacao, hein, oui, qui a pu servir d'ailleurs aux Amérindiens pour les lampes à huile. Donc c'est vraiment une huile.
C'est censé être maigre.
Voilà, disons. C'était censé être maigre, donc on pouvait le prendre le vendredi ou pendant le carême. Donc les ordres religieux vont s'en servir. Et comme la théobromine est un cousin de la caféine, qui n'est pas aussi excitant, donc il n'empêche pas l'endormissement, mais enfin qui rend euphorique, joyeux, parce que c'est un vasodilatateur, eh bien le chocolat était recommandé dans les couvents et a été pas mal utilisé.
Donc là, on est au XVIe siècle.
On est fin XVIe et fin XVIe, début XVIIe, ça devient une très grande mode en Espagne. Bien sûr, chez les gens très riches, hein, faut pas oublier que c'est un produit qui a traversé l'Atlantique, donc qui est très cher. Alors ça signifie que déjà, les premières plantations de cacaoyers se développent aux Antilles. On y reviendra peut-être parce que ça suppose l'esclavage. Évidemment, comme on y met du sucre, là, on est franchement dans le rapport entre le chocolat et l'esclavage.
En Espagne, on le consomme sous quelle forme ? Toujours sous forme de boisson ?
Oui, oui, uniquement de boisson. Jusqu'au 19e siècle, ce sera uniquement des boissons. On le prend sous forme d'une boisson chaude, mais c'est une boisson qui est émulsée, c'est-à-dire il faut un moulin. Là, c'est directement venu des techniques indiennes pour pouvoir maintenir le chocolat en suspension, pour le rendre mousseux. Donc, on a importé cette technique et on a même importé le récipient, mais un peu transformé. C'est-à-dire que les mésoaméricains, aztèques, mayas, utilisaient une graine ligneuse d'un fruit et vidée pour s'en servir de récipient. Les Européens ont importé aux Antilles le cocotier. Et donc, la noix de coco va être parfaite pour le chocolat parce que, évidée, c'est quelque chose qui maintient la température. Donc, la température du chocolat qui lui permet d'être consommé avec la bonne consistance, ça le maintient au chaud et en même temps, ça permet de pas se brûler. On met généralement un petit cercle d'argent au bord pour que ça soit agréable pour les lèvres. Évidemment, en Espagne, où ça devient vraiment la mode chez les gens riches, on le voit dans les pièces de Tirso de Molina, vous avez des récipients en grès qui vont être faits. Et on les appelle souvent des Marcelina, du nom du marquis de Montserrat, qui avait été vice-roi au milieu du XVIIe siècle et qui va vraiment lancer la mode. On lui doit, paraît-il, le creux des sous-tasses qui permet de maintenir la tasse en
dans son emplacement.
Voilà, tout à fait. Donc la mode du chocolat, à partir de l'Espagne, va se diffuser dans le reste de l'Europe.
Vous avez fait allusion au fait qu'il apparaît dans des textes de littérature ou au théâtre. C'est quelque chose qui se vérifie dès le XVIe siècle.
Alors c'est l'âge d'or espagnol, c'est-à-dire début XVIIe. Hein. J'ai cité Tirso de Molina, mais il y a aussi les pièces de Calderón dans lesquelles le chocolat joue un rôle en Espagne. On le verra par exemple dans la littérature ou la musique, dans Così fan tutte par exemple, au XVIIIe siècle. Mais c'est d'abord une boisson espagnole. Dans l'encyclopédie, je crois qu'il est écrit que priver les Espagnols de chocolat, c'est à peu près comme priver de pain le reste de l'Europe.
Christian Gradalou, vous nous racontiez que le chocolat, sous forme liquide, hein, le chocolat qui se boit, rencontre un très vif succès en Espagne au XVIe et puis surtout au XVIIe siècle. Et c'est à partir de l'Espagne, où il s'est carrément imposé, qu'il va se diffuser en Europe. Ça se passe par quel biais ?
Alors, ça se passe par les plus hautes sphères de la société, parce que le chocolat, traversant l'Amérique, même si à partir de la fin du XVIIe siècle, il commence à y avoir des plantations de chocolat dans des îles de l'Atlantique, Sao Tomé, qu'on appellera d'ailleurs plus tard l'île chocolat, et puis même, mais ça sera plutôt au XVIIIe, des îles de l'océan Indien. De toute façon, ça vient de loin, ça vient de régions tropicales, et c'est donc réservé, c'est même d'ailleurs des arrivées aléatoires, parce que les compagnies des Indes, occidentales ou orientales, n'amènent que par cargaison discontinue les cabosses de cacao. De ce fait, c'est réservé d'abord aux cours ou à la grande bourgeoisie. En Espagne, c'est un peu plus diffusé, mais enfin, ça reste quand même l'apanage des gens les plus aisés.
Donc ce sont les gens aisés qui voyagent en Europe, qui l'emportent avec eux.
Alors, il y a toutes les logiques classiques de diffusion, c'est-à-dire que c'est d'abord une diffusion, les géographes appelleraient ça une diffusion hiérarchique, c'est-à-dire c'est d'abord par les dirigeants, et en particulier les cours royales. On peut commencer par l'exemple français. Il ne faut pas oublier que les reines de France au XVIIe siècle, Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, et Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, étaient des Espagnols. Des Habsbourg, c'est pour ça qu'elle s'appelle Anne d'Autriche, bien qu'espagnole. Donc, elles ont apporté à la cour de France le goût du chocolat. Chocolat chaud toujours, hein, n'oublions pas. Louis XIII ne l'a certainement pas partagé. C'est avec Mazarin que ça se diffuse un petit peu plus à la cour. Il avait fait venir des cuisiniers spécialisés dans le thé, le café et le chocolat, justement.
Parce qu'il y avait une façon très précise de les préparer.
Ah, c'était très
technique.
C'était
tout un art.
C'était tout un art, parce que c'était pas simple, des petits morceaux de chocolat râpés qu'il fallait maintenir en émulsion dans du lait ou de l'eau chaude, à une température bien précise, tout en tournant avec un moulin pour le faire mousser, pour maintenir l'émulsion qu'était le chocolat, oui, ça nécessitait des compétences techniques. D'ailleurs, Marie-Thérèse, qui, elle, était vraiment passionnée de chocolat et ne pouvait pas se passer de chocolat le matin, avait une de ses servantes qu'elle avait amenée d'Espagne, qu'on appelait la molinera, la moulineuse, parce qu'elle savait faire tourner le fouet à chocolat, paraît-il, de la manière qu'appréciait évidemment la souveraine.
Donc voilà pour la France et la manière dont le chocolat est introduit à la cour, puis après se diffuse dans la société, dans les couches, disons, un peu plus basses, enfin dans l'aristocratie, puis dans la noblesse, et après dans la bourgeoisie, on le verra plus tard.
C'est vrai aussi par voisinage, parce que la porte d'introduction du chocolat plus commercial, ça a été Bayonne. C'est-à-dire justement à la charnière avec l'Espagne, avec un rôle très important joué par la communauté des Juifs maranes, réfugiés du Portugal d'abord, puis il y aura ensuite des Espagnols, qui dans un faubourg, je crois qu'il s'appelait le faubourg du Saint-Esprit, à Bayonne, avaient monté les premiers commerces du chocolat. Et cette tradition va rester, et d'ailleurs il y a toujours une tradition du chocolat importante à Bayonne, cette tradition est restée puisque au XIXe siècle, c'est à Bayonne qu'a été la première chocolaterie industrielle de France.
La suite de l'histoire.
Et alors à ce moment-là, au XVIIe siècle, on le vend à qui ?
Alors, ça, c'est avec très peu de gens, évidemment. Des gens qui en ont les moyens, c'est au 18e que les prix se mettront à baisser. Mais vous avez là, disons, la haute aristocratie.
Toujours,
et
hein.
Voilà, des gens qui veulent vraiment s'affirmer comme distingués. Il y a un exemple littéraire qui est très connu, c'est la marquise de Sévigné. Elle en parle 3 ou 4 fois dans ses lettres, pour en dire une fois du bien, une fois du mal, une fois du bien. Au début, elle en est complètement entichée. Lorsque sa fille s'arrête à Lyon, elle est très inquiète pour savoir si elle pourra se procurer du chocolat. Puis 6 mois plus tard, elle lui dit « Non, surtout ne prends plus de chocolat, je suis fâchée avec ». Et puis ensuite, elle lui dit « Mais maintenant, je me suis réconciliée, prends donc du chocolat ». Elle a même raconté une histoire, parce qu'elle était mauvaise langue, la marquise, une histoire assez croustillante sur une autre marquise, bretonne, Madame de Coëtlon, qui aurait accouché d'un enfant noir parce que, dit-on, elle aimait trop le chocolat. Alors, je sais bien qu'on prête des envies aux femmes enceintes, mais disons que les notes de bas de page des lettres rappellent que cette marquise avait un jeune serviteur noir qui venait lui apporter le chocolat le matin et qu'il était charmant, ce serviteur noir. Donc, ça serait peut-être pas vraiment le chocolat qui serait responsable
de la naissance de cet enfant.
Voilà.
Alors voilà pour la France, Christian Grataloup. Dans les autres pays européens, c'est le même processus qui s'installe ?
Alors, le pays qui est le plus important, c'est l'Italie, parce qu'il ne faut pas oublier que la puissance, la grande puissance internationale de l'époque, qui était l'Espagne, était dominante en Italie par le royaume de Naples, par un certain nombre de puissances septentrionales. Donc, les Italiens, qui étaient les introducteurs, eux, du café, parce qu'ils étaient en contact avec les Turcs, les Italiens vont aussi s'approprier le chocolat et le diffuser. Les cuisiniers que j'ai évoqués pour Mazarin étaient italiens, d'ailleurs. Donc, ils vont s'emparer du chocolat et comme du café, à tel point d'ailleurs qu'à la fin du XVIIe, les Turinois vont inventer un mélange qu'ils appellent la Bavariella, de chocolat et de café, qui serait au fond l'ancêtre de notre cappuccino. Alors, les Italiens jouent un rôle de diffusion dans toute l'Europe, parce que c'est, disons, la mode est à l'italianisme, dans la musique, dans le théâtre. Donc, vous avez également dans des éléments alimentaires. Donc là, ça va jouer une diffusion plus large que celle par les cours, comme on a vu pour la France. Mais enfin, on a des dates. Il y en a une qui est bien connue, c'est celle du diariste britannique Samuel Pepys, qui note dans son journal chaque fois qu'il a fait quelque chose de nouveau. Et c'est le 23 avril 1661 qu'il a consommé pour la première fois du chocolat. Alors, il l'a fait parce que, en termes, disons, familiers, il avait la gueule de bois, dans la mesure où la veille, il avait fêté l'avènement de Charles II, donc la restauration monarchique, et après la période Cromwell, qui était une période d'austérité, évidemment, bon, on pouvait pas tellement boire, manger, festoyer, et donc, c'est ce qu'il a fait le 22 avril, et le lendemain, pour se restaurer, pour se retaper, il a bu son premier bol de chocolat.
Et oui, il en a découvert les vertus.
Ah oui, il en était très content. Ça, effectivement, il a dû en reboire plusieurs fois ensuite. Mais c'est évidemment quelqu'un d'aisé, Pépis. Hein. Mais ça montre effectivement qu'il y avait, comme souvent dans ces produits, une dimension un peu médicale qu'on prêtait. On verra qu'il y avait une dimension même d'un médicament très particulier qui serait assez proche de notre Viagra qu'on prêtait au chocolat.
Ceci dit, effectivement, les vertus médicamenteuses, en quelque sorte, du chocolat vont rester très longtemps.
Disparu aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un alicament, comme on dit. Hein. Et parce que effectivement, ça permet d'être un reconstituant. C'est un vasodilatateur, hein, le chocolat, donc ça permet d'être un peu plus gai. C'est tout à fait recommandé si on est un peu déprimé. Donc oui, le chocolat, c'est une très bonne chose, à condition évidemment de ne pas en abuser. C'est gras et c'est sucré.
Extrait d'une lettre de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan, datée du 11 février 1671. « Mais vous ne vous portez point bien, vous n'avez point dormi. Le chocolat vous remettra. Mais vous n'avez point de chocolatière, j'y ai pensé mille fois. Comment ferez-vous ?»
La suite de l'histoire.
Le 15 avril 1671, Madame de Sévigné écrit à sa fille, Madame de Grignan. « Le chocolat n'est plus avec moi comme il était. » La mode m'a entraînée comme elle fait toujours. Tous ceux qui m'en disaient du bien m'en disent du mal. On le maudit, on l'accuse de tous les maux qu'on a. Il est la source des vapeurs et des palpitations. Il vous flatte pour un temps et puis vous allume, tout d'un coup, une fièvre continue qui vous conduit à la mort. Au nom de Dieu, ne vous engagez point à le soutenir.
L'Europe du Nord, l'Europe de l'Est sont concernées aussi ? Ou il y a des endroits qui résistent ?
Non, le chocolat va conquérir le monde entier et il continue aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe du Nord, elle est assez pauvre dans l'ensemble et l'Europe de l'Est encore plus. Donc ce qui se produit à Londres, on l'a vu avec Pépis, à Paris, on l'a vu avec la Cour, en Versailles, en Italie, en Espagne, qui sont les régions les plus riches à ce moment-là, se produit beaucoup plus lentement. Donc, bien sûr, à la Cour de Suède ou en Pologne, on va bien sûr progressivement goûter au chocolat, mais ça reste marginal jusqu'au pratiquement la fin du XVIIIe siècle.
Est-ce qu'on commence à imaginer l'utiliser d'une autre manière ? Inventer des recettes, en faire un accompagnement ?
Ah oui, l'imagination est sans borne pour l'utilisation. Il ne faut pas oublier que ce que nous on appelle de manière restrictive, pour juste des adjuvants de goût précis, des épices, ça voulait dire les produits lointains. Au Moyen-Âge et ensuite dans les siècles qui ont suivi. Donc, tous ces produits qui viennent de loin, on leur prête tout un tas de vertus médicamenteuses, mais aussi, on va les tester dans l'alimentation. De ce point de vue-là, lorsque le chocolat, comme le thé ou le café, arrive dans la seconde moitié du XVIIe siècle en Europe, c'est le moment où se met en place la cuisine savante. C'est une invention française, hein, la cuisine qui est maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une invention de cour, hein, précisément même de Versailles, d'avoir cette cuisine dans laquelle on va tester ou expérimenter. Ce qui fait que le chocolat va bénéficier aussi d'une évolution technique. Par exemple, le fait qu'il va falloir mettre dans une pièce à côté de la salle où l'on mange, qui n'est pas encore la salle à manger stricto sensu, ça n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, cette pièce, et dans une pièce à côté qu'on appelle un office, donc, parce que c'est là où travaillent des officiers, c'est-à-dire des domestiques, en fait. Des endroits avec des petits réchauds, des braises pour maintenir au chaud, parce qu'on fait des plats beaucoup plus savants. C'est à ce moment-là, on fait des fricassés, des flambés, etc., qu'on va servir à table chaud. Ce qui est totalement différent de toute la cuisine antérieure, où les cuisines étaient dans les sous-sols, étaient souvent dans des bâtiments séparés, parce que le feu, c'est dangereux. Donc, entre le moment où on sortait du feu et le moment où on apportait à table. Mmh. Voilà. Tandis que le chocolat, ça sera beaucoup plus vrai encore pour le chocolat, qui a besoin d'une température très précise, eh bien, il doit être servi immédiatement. Donc, il est fait souvent par des domestiques particuliers, des officiers de bouche, qui vont s'occuper directement de leur maître ou de leur maîtresse pour leur préparer leur chocolat, en particulier le chocolat qui va s'imposer comme une boisson du matin.
Et puis, on verra peut-être aussi que les possibilités qu'il offre sont bien plus vastes que celles qu'offre le thé, par exemple, ou le café.
Oui, tout à fait, parce que il se coagule, il se solidifie. Alors, c'est seulement vraiment au 19e siècle qu'on pourra faire du chocolat solide, de la tablette en particulier, mais dès le 17e, on va associer le chocolat au sucre pour le mettre sur des graines, par exemple des amandes, c'est-à-dire faire quelque chose qui est une très vieille pratique médiévale. Quand on mettait du sucre sur une amande, entre autres, c'est ce qu'on appelle une dragée. Les drageoires, on en a du 15e, 16e siècle, hein, c'est vraiment une vieille pratique. Et la dragée est l'ancêtre du bonbon.
Grattalou, au XVIe et surtout XVIIe siècle, le chocolat se diffuse un peu partout en Europe. On commence à non seulement à l'apprivoiser, mais à beaucoup l'apprécier. Est-ce qu'il y a un moment donné où il devient véritablement une mode ?
Ah, c'est au début du XVIIIe siècle. Comme d'ailleurs le café et le thé, hein, les trois s'imposent comme des modes. Et de manière simultanée, on voit d'ailleurs à ce moment-là converger les objets. La chocolatière ressemble beaucoup à la cafetière. Elle a juste une chose qui le différencie, qu'on voit très bien dans les musées, c'est qu'elle a un trou au sommet du couvercle pour pouvoir passer le fouet, le moulin à chocolat qui permet de maintenir l'émulsion. La théière est simplement la même forme, mais plus basse parce que c'est pas la même température. Donc, vous avez aussi les tasses, hein, qui vont converger, et les grosses noix de coco qui servaient à l'origine pour le chocolat européen vont disparaître par rapport à des récipients qui seront plus classiques et qui ressembleront aux tasses importées d'un modèle, lui, d'origine chinoise pour le thé.
Tout va ensemble.
Voilà, tout va ensemble. Alors, le chocolat s'impose même comme la boisson du XVIIIe siècle. C'est parmi les boissons, ces trois boissons qui sont à la mode, d'abord chez les riches, mais ça se diffuse assez vite dans la société. Eh bien, le chocolat vraiment s'impose. Et il s'impose en particulier comme la boisson du matin. Ça peut être aussi une boisson de l'après-midi, mais la boisson du petit matin. Alors, on dit pas encore le petit déjeuner. C'est une expression qui ne viendra qu'au début du XIXe siècle, parce que on divisera le grand et le petit déjeuner.
On parle de quoi, alors, le matin?
Ah, on dit de déjeuner tout court. Ah, vous avez au Louvre un tableau de Boucher qui s'appelle Le Déjeuner, qui est de 1739, qui nous montre le peintre avec sa famille, y compris les enfants, ce qui est une nouveauté au XVIIIe siècle, en train de boire ce qui doit être peut-être du chocolat, peut-être du café. On peut pas difficilement distinguer. C'est pas du thé, parce que la théière est posée sur un rayonnage. En tout cas, c'est la boisson principale qui n'est pas du tout spécialement une boisson d'enfant. Cette boisson, elle a un côté revigorant, c'est un côté de distinction sociale, et c'est quelque chose qui va se diffuser par les catégories les plus aisées. À la cour de France, ça avait été introduite par Marie-Thérèse, mais c'est le régent. Donc après 1715, qui va l'imposer, tous les matins, il prend son chocolat à côté de sa chambre, dans un salon où il reçoit les premières personnes qui ont le bonheur d'être auditionnées par le régent. C'est ce qu'on appelle le chocolat du prince. Donc être admis au chocolat du prince, c'est quelque chose de formidable, qui vous classe tout de suite à la cour. D'ailleurs, pendant ces années-là où l'expression déjeuner signifie simplement le repas du matin, ce qui vient devenir notre petit déjeuner a failli s'appeler le chocolat, prendre son chocolat. C'était vraiment la boisson, et ensuite, comme le thé et le café vont aussi s'y introduire, l'expression déjeuner puis petit déjeuner vont petit à petit se diffuser.
Donc si c'est pratiqué à la cour, ça devient à la mode dans tout le reste de la société.
À la cour comme à la ville, comme on disait, pour distinguer Paris et la bourgeoisie parisienne. Ce que d'ailleurs montre le tableau de Boucher, c'est que c'est effectivement une pratique que quelqu'un comme Boucher, qui était riche, hein, pouvait tout à fait pratiquer. Mais en même temps, si ce tableau a du sens, c'est justement parce que c'est un élément de diffusion d'une d'une pratique nouvelle, d'une mode qui va durer.
C'est un chocolat qui est mélangé avec du lait ?
Alors, du lait ou de l'eau ? Du lait ou de l'eau, hein, l'un ou l'autre. Mais effectivement, le lait, c'est une pratique que les Européens vont mettre, puisqu'ils vont le faire aussi pour le café et le thé, ce qui pour les Chinois est une aberration pour le thé. Donc, vous avez l'utilisation du lait avec le chocolat, ce qui en fera plus volontiers une boisson d'enfant plus tard.
La suite de l'histoire.
Alors justement, pourquoi, pour le moment, cette boisson n'est-elle pas particulièrement destinée aux enfants ?
Alors, d'abord parce que les enfants, comme c'est très cher, tant que c'est cher, effectivement, c'est quand même plutôt les adultes qui se le réservent, mais surtout parce que le chocolat a la réputation d'être un aphrodisiaque.
Au 18e ?
Alors, précisément au 18e. Toutes les plantes qui sont arrivées nouvelles, l'artichaut, l'asperge, enfin tout ce qui était nouveau, on a toujours soupçonné que ça pouvait avoir une petite connotation qui serait celle aujourd'hui du Viagra. Aussi d'ailleurs de stimulant pour les femmes. Le chocolat va l'avoir longtemps parce que son côté euphorisant fait effectivement que ça rend plus joyeux et peut-être effectivement plus disponible à la bagatelle. On raconte d'ailleurs que les favorites royales, Madame de Pompadour, puis Madame de Barry, prenaient du chocolat pour se stimuler ou le faisaient donner, en donnait à leur royal amant pour qu'il soit plus en forme. Casanova, par exemple, dans ses mémoires, dit que bon, le champagne, c'est pas mal, mais le chocolat, c'est encore mieux pour mettre les dames en bonne disposition. Donc, vraiment, le chocolat a cette connotation qui ne disparaîtra qu'au 19e siècle.
C'est donc une boisson pour adultes.
Voilà, strictement. Homme ou femme, mais pour adultes.
Christian Grataloup, cette consommation qui explose sous-entend donc un approvisionnement beaucoup plus important.
Et c'est un point très important, c'est-à-dire que si la consommation augmente, puisque dans l'enquête de Lavoisier à la veille de la Révolution française sur l'approvisionnement de Paris, il y a une consommation moyenne pour les Parisiens de 200 grammes de chocolat à Paris à la veille de la Révolution. C'était peut-être le lieu où on en mangeait le plus au monde à ce moment-là, ce qui est rien pour aujourd'hui, 200 grammes. C'est une tablette par personne et par an. Mais pour l'époque, c'est considérable, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'en mangeaient pas. Enfin, qui n'en buvaient pas, d'ailleurs, plutôt. Donc, vous avez une production qui a beaucoup augmenté, puisque ce ne sont plus seulement les riches, mais aussi des gens du peuple, par l'intermédiaire souvent des domestiques. Il y a une scène célèbre de Così fan tutte, où la servante prépare du chocolat aux deux jeunes filles, avec la connotation érotique que j'ai évoquée il y a un instant, pour qu'elle cède aux avances des deux garçons, avec le croisement de l'opéra de Mozart. Alors, au début, elle tient des propos un petit peu révolutionnaires, du genre, pourquoi elles ont droit au chocolat et pas moi, j'ai droit qu'à l'odeur. Et puis finalement, elle boit le chocolat, d'ailleurs.
Donc en tout cas, ça signifie bien que c'est aussi par les employés de maison et les servants que ça se diffuse dans le peuple.
Beaucoup de diffusion à partir des catégories sociales aisées se font par l'intermédiaire des domestiques qui sont des urbains. Donc c'est d'abord dans les villes que vous avez ces pratiques, puis les bourgeoisies provinciales, etc. Et finalement, à la fin du 18e, toute l'Europe aisée peut, à un moment donné, souvent exceptionnellement bien sûr, boire du chocolat.
Pour en revenir à la production.
Eh oui, parce que si je suppose que consommation de quelque chose qui n'est pas produit en Europe, le cacao, et d'ailleurs le sucre également, ça suppose, outre-mer, beaucoup, beaucoup de plantations.
Aux Antilles notamment ?
Alors, ça a d'abord été au Brésil pour le sucre, et puis très vite aux Antilles et pour le sucre et pour le cacao à partir de l'Amérique centrale, puis dans d'autres régions intertropicales, dans les îles au large de l'Afrique, et puis dans l'océan Indien dès le XVIIIe siècle, donc la Réunion et l'île Maurice actuelle. Plus tard, ça gagnera aussi le Pacifique. Vous avez des entreprises de production massives avec une main-d'œuvre esclave. Donc, plantation signifie également traite négrière. Le XVIIIe siècle, ça représente 80% de la traite négrière qui s'est produite. Le reste, ce sera essentiellement le tout début du 19e. Ce qui s'était produit avant, 16e, 17e, c'était presque rien par rapport aux traites du 18e. Donc le grand commerce négrier, c'est celui qui permet aux Européens de prendre du chocolat chaud.
On pense surtout au coton, par exemple, et au canne à sucre.
Plus tard, le coton commence seulement à la fin du 18e, avec le début de la révolution industrielle. Alors bien sûr, avec la canne à sucre, il y a un célèbre passage de Candide où Voltaire fait dire aux nègres marrons, à qui on a coupé un bras, une jambe, c'est grâce à cela que vous pouvez prendre du sucre, il aurait pu dire du chocolat, en Europe. Candide, qui a d'ailleurs bu du chocolat dans le périple que lui fait faire Voltaire, il a bu du chocolat à Venise. Vous avez là, effectivement, qui lie cette douceur du chocolat, ce plaisir gustatif du chocolat à tout l'esclavage, à toutes les traites négrières qui a désarticulé et l'Afrique et l'Amérique intertropicale.
Le fait est que c'était vraiment un marché florissant.
Ah, c'était l'affaire de spéculation avec des fortunes et des entreprises qu'on va voir se développer au 19e siècle dans le cadre de l'industrialisation, mais avec déjà des toutes premières entreprises qui vont commencer fondées sur le chocolat ou le café et le thé. Mais enfin, le chocolat joue un rôle très important à ce moment-là.
Avec de très riches colons qui, du coup, en tirent des bénéfices extraordinaires.
Les plantations sont pas ce qui permet le plus de s'enrichir.
C'est pas si rentable que ça.
Ça peut être très rentable, mais c'est très spéculatif. C'est-à-dire que c'est très fragile, une plantation, à cause entre autres des révoltes, hein. Pensez que Haïti, ça se termine par les révoltes de Toussaint Louverture. Vous avez, et c'est pas simplement le sucre, hein, c'était aussi l'indigo d'ailleurs, pas seulement le coton, mais le cacao. En général, le sucre était dans les parties basses, des parties plates et plus humides, et puis sur les collines, on faisait pousser les cacaoyers. Donc les planteurs pouvaient gagner de l'argent, mais parfois c'était tout perdu, parce que tout était détruit. C'était les compagnies, les transporteurs, les compagnies des Indes occidentales ou orientales qui gagnaient pas mal d'argent avec ce genre de commerce. Et puis ensuite, les commerçants locaux qui transformaient le chocolat et qui vont devenir à la base de l'agroalimentaire industriel du 19e.
Christian Grataloup, dans quelle mesure la révolution industrielle a-t-elle un impact sur la fabrication, la vente et la consommation du chocolat ?
Un impact énorme. D'abord parce que la révolution industrielle modifie profondément les modes de vie en urbanisant l'Europe, hein, qui était composée avant tout de paysans qui mangeaient de la soupe le matin et pratiquement jamais du chocolat. Donc les urbains, eux, sont soumis à des rythmes, qui sont ceux du bureau, de l'usine, de la caserne, du lycée, ou de l'école primaire, qui fait que le matin, on va être obligé de prendre une boisson rapide et dopante. Donc le chocolat va jouer un rôle en se spécialisant en 19e dans la boisson pour les enfants. Ça va être un élément.
Ça y est, nous y sommes.
Voilà, ce que là, ça va passer. Alors, et d'autre part, la révolution industrielle, c'est aussi parce que le petit déjeuner et le chocolat, entre autres, c'est le début de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est les deux aspects de la révolution industrielle sur la manière de vivre et de consommer et sur l'industrialisation des productions alimentaires.
Alors donc, revenons-en d'abord à la consommation. Le fait que ça devienne une boisson pour enfants, c'est important à souligner.
Il y a deux éléments clés qui vont modifier profondément le rapport au chocolat, la consommation du chocolat. C'est en 1828, il y a un Néerlandais qui avait construit la première chocolaterie industrielle des Pays-Bas, qui s'appelle Conrad van Houten, donc son nom nous est tous connu, qui va inventer le chocolat soluble. C'est-à-dire qu'il va avoir des presses suffisamment puissantes, grâce à la machine à vapeur, pour râper suffisamment fin du chocolat pour le rendre soluble, mélangé avec du sucre, bien sûr. Ça, c'est le premier changement. Et puis, le deuxième important, c'est qu'en le rendant soluble, il va permettre de le rendre solide. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est parce que le chocolat soluble va pouvoir être moulé. Et donc, si on fait refroidir du chocolat moulé, bien, on a du chocolat dur, ce qui fait que on aura en 1847, cette fois-ci, dans le cadre d'une chocolaterie qui va jouer un rôle très important dans cette histoire, qui est à Bristol, la chocolaterie Fry, l'invention de la tablette de chocolat.
19e siècle, donc.
C'est au début du 19e siècle que le chocolat en poudre, qui va devenir ensuite le chocolat soluble pour le chocolat chaud, il permettra ce qu'on pratique toujours, nous, sous la forme du chocolat chaud, qui ne nécessite plus le fouet, le moussoir. C'est quelque chose qui va se maintenir pour le chocolat chaud, qui reste une constante, et en particulier à la fin du 19e siècle, associé au sucre et associé au lait. Le lait plus le chocolat chaud devient, dans la seconde moitié du 19e siècle, la boisson des enfants dans une perspective hygiéniste. Parce que on sait que c'est bon pour la santé et que ça reconstitue et qu'il n'y a pas de drogue dure. C'est-à-dire que c'est au début du 19e que la chimie permet l'analyse des boissons, qu'on découvre en 1827 la caféine. On isolera également très vite la théine, mais on s'apercevra que la théine, c'est de la caféine. Mais inversement, les composants du chocolat ne contiennent pas de caféine, même si le théobromine, qui est un composant important du chocolat, est un stimulant, mais n'est pas un stimulant sur le système nerveux, n'agit pas sur le système nerveux, donc n'a pas du tout les effets de la caféine. Le chocolat n'empêche pas de dormir.
Une fois que ce doute-là est levé, qu'on peut faire du chocolat soluble, c'est la voie ouverte à l'industrialisation.
Tout à fait. D'autant plus qu'on avait signalé l'importance des compagnies des Indes, c'est-à-dire de grandes entreprises, qu'on appellerait d'économie mixte d'ailleurs aujourd'hui, pour pouvoir maîtriser ce commerce très très lointain et maîtriser les risques financiers que représentait toujours ce commerce. Alors, ces compagnies vont disparaître au 19e, mais la nécessité d'aller loin pour se procurer ces marchandises, de les stocker, de les transformer, c'est déjà un premier élément qui va les intégrer dans l'agroalimentaire. Le deuxième, c'est qu'ils nécessitent tous des transformations. Le chocolat, c'est absolument évident. Entre les cabosses de cacao et la tablette de chocolat finie ou le chocolat soluble en poudre, le Van Houten, qui a le monopole pratiquement jusqu'au milieu du 19e, eh bien, jusqu'à ce que Poulain lui fasse concurrence, vous avez là quelque chose qui nécessite toute une machinerie. D'autant plus qu'on va beaucoup travailler le chocolat et avoir une série d'inventions dans lesquelles les Suisses jouent un très grand rôle dans la seconde moitié du 19e siècle.
Parlons des Français quand même.
Eh oui. Alors, l'introducteur de la tablette en France, c'est le Français Antoine Brutus Meynier, qui introduit la tablette dans les années 1850 en France, à partir de ce que les Anglais avaient fait à Bristol. C'était des Quakers, j'y reviendrai, la chocolaterie Fry. Et c'est lui qui, en 1870, construit la chocolaterie de Noisiel, qui est maintenant classée comme monument historique, qui était une chocolaterie la plus moderne et qui était la plus productive du monde lorsqu'elle a été créée en 1870. L'autre grande firme française qui va jouer un rôle, c'est celle de Victor Auguste Poulain, qui lui crée en 1848 à Blois une entreprise de chocolat qui, sous des formes diverses, existe toujours, même s'il est maintenant intégré à un très grand groupe. Alors Poulain a particulièrement visé la clientèle enfantine, puisque c'est lui qui a créé le chocolat en poudre pour les enfants, et d'autre part, qui a, dans les tablettes, été le premier à inventer les petites vignettes, les petites images à collectionner.
Déjà du marketing, là.
Voilà, c'était un roi du marketing, Poulain, qui a vraiment pensé à l'emballage de la couverture de la tablette de chocolat, et puis comment fidéliser sur sa tablette avec les petites vignettes, et ensuite des albums qui permettaient de collectionner les vignettes.
Pour un dessert attirant, il faut du chocolat blanc, ou noir pur beurre de cacao, et ajouter peu d'eau, pas de matière grasse végétale. La question est primordiale pour un gâteau tendre et moelle. Du sucre fin et plein de séparer les jaunes des blancs. Voilà qui est embêtant, car je m'en mets plein les pattes. Opération délicate, c'est bon, bon, bon. Ça sent bon, 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 bon. Oh, c'est bon, bon, bon. Oh, c'est bon, 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 bon. La meringue est importante. Battre et fouetter en cadence, ajouter une pince.
Mais donc derrière ces marques, il y a des hommes inventifs qui déposent des brevets, qui améliorent vraiment les techniques de fabrication et de vente.
Absolument. Alors ce sont les Suisses qui vont jouer un rôle important. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi la Suisse. Parce que c'est quand même un paradoxe que la Suisse soit devenue le pays du chocolat. Oui. C'est seulement à la fin du 19e que cette bifurcation se produit.
Avec Suchard.
Avec entre autres Suchard, oui, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres personnes, dont c'est un certain monsieur Nestlé, qui va
Suisse,
pour l'agroalimentaire, qui
oui.
est également un Suisse, oui. Vous avez le lien qui est pensé par le protestantisme. Je vous avais dit il y a un instant que la chocolaterie Fry de Bristol, alors Bristol, c'est pas étonnant, c'est le grand port colonial anglais de la fin du 18e, donc c'est là que se met en place une chocolaterie proto-industrielle. La chocolaterie Fry a été la première à utiliser une machine à vapeur pour pouvoir broyer le chocolat. Donc ce que ensuite on a vu Van Houten faire aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui va lui permettre de faire entre autres des petits bonbons au chocolat. Alors les Quakers militaient pour le chocolat contre l'alcoolisme. Pour lutter contre l'alcoolisme, c'était pour les adultes et même pour les jeunes enfants à qui on pouvait donner du gin, il s'agissait de lutter contre l'alcoolisme et en même temps de donner quelque chose qui n'était pas mauvais à la santé et qui permettait éventuellement d'être partagé. À partir du moment où on aura inventé la tablette, ce sont les Suisses qui vont inventer de faire des carrés dans la tablette pour le partager équitablement. Enfin, c'est ce qui se pensait. Alors, les Suisses sont connus dès la fin du 17e par un bourgmestre de Zurich qui était passé à Anvers. Et là, ça ne doit pas non plus nous surprendre, c'est un grand port colonial, mais c'est aussi les Pays-Bas espagnols à l'époque, donc on retrouve l'origine espagnole du chocolat. Mais en fait, c'est surtout par les filières protestantes, entre les Quakers et les Calvinistes, qu'il va y avoir une filiation du chocolat via la Belgique le plus souvent. Donc le chocolat apparaît comme une boisson d'abord, puis ensuite un aliment plutôt protestant que catholique. Au début, ensuite évidemment, tout le monde va pratiquer la tablette de chocolat.
Ça fera l'unanimité.
Voilà. C'est les années 1800, autour de 1870, qu'il va y avoir tout un tas d'innovations et de modifications.
Sur quel plan?
Alors, en 1879, il y a deux inventeurs. Un homme qui s'appelle Peter, qui n'a pas laissé son nom à un objet, mais qui a été l'inventeur du chocolat au lait. Et l'inventeur du lait concentré, lui, qui est Henri Nestlé. Donc les deux s'associent et c'est Nestlé qui donne son nom à l'entreprise. Mais au départ, ils s'occupent essentiellement d'abord de lait, puis seulement au début du XXe siècle de chocolat. Mais là, avec le succès que l'on connaît pour le chocolat et pour ultérieurement le café, n'est-ce pas, what else? Et à peu près la même année, 1879, il y a un monsieur qui s'appelle Rodolphe Lindt, qui lui invente un procédé, par hasard d'ailleurs, en laissant tourner une machine pendant tout un week-end et en l'oubliant, en s'apercevant que le chocolat devient beaucoup plus ponctueux après avoir été mélangé très longuement. Il va inventer une machine spéciale en forme de coquillage, donc il va appeler ça concha en espagnol, donc le conchage, qui est une technique très importante pour faire le chocolat affiné, qui va être beaucoup plus moelleux et savoureux. Donc ça, c'est une invention de Lindt dont il va garder d'ailleurs pendant très longtemps le privilège.
Un Britannique.
Non, Lindt est un Suisse. Non, c'est un Suisse. Tout ça est inventé en Suisse, autour de Lausanne, entre Zurich et Lausanne. Vous avez tout un tas de villes et d'entreprises. Nestlé est basé à Lausanne. D'ailleurs, c'est à Beauvais, je crois qu'il y a toujours le siège de la firme aujourd'hui. Alors, même chose, en 1908, un monsieur qui invente un chocolat mélangé avec du nougat et du miel, et auquel il donne une forme abracadabrante, qu'on appelle en crémaillère, qui est le Toblerone. Ce monsieur s'appelle Auguste Tobler. Et vous avez à peu près la même année un monsieur que vous avez cité, qui s'appelle Jacob Suchard, qui invente un chocolat au lait très onctueux, qui existe toujours sous le nom de Milka. Vous avez là toutes ces...
Des marques, puis des inventions.
Tout à fait, toutes ces marques. L'invention d'ailleurs de Tobler a été déposée au bureau des brevets, et l'employé qui a écrit le brevet s'appelait Albert Einstein. Il était tout jeune homme.
Celui-là même,
il était tout jeune homme. Bon, son rapport au chocolat se limite à ça. Je crois qu'il l'aimait bien, mais enfin bon, comme beaucoup de gens. Mais vous avez là, c'est purement anecdotique.
C'est un déjeuner.
Un goûter délicieux, banania.
Banania, banania.
Y a bon.
Banania.
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 Alors, je voudrais
pour conclure,
terminer juste sur une dernière histoire qui date, elle, de 1912-1914. C'est un journaliste français qui se promène à ce moment-là en Amérique centrale et qui, dit-on, est initié par des Indiens à un mélange de céréales, de bananes et de chocolat, avec du sucre, bien sûr. Quand il revient en France en 1914, il en dépose le brevet, construit une usine, et il ne sait pas très bien s'il va l'appeler Bananaria, Banao, et finalement, il la dépose la marque le 31 août 1914, sous le nom de Bananaire. Le Banania, qui va au départ être avec une publicité, avec une antillaise, parce que c'est les colonies françaises, comme c'est le contexte de la guerre de 14, c'est le tirailleur sénégalais qui va s'imposer avec la fameuse slogan « Ya bon, Banania », qui existe toujours aujourd'hui sous les petits flancs « Ya bon ».
Christian Grataloup, nous avons un peu passé en revue tous ces inventeurs, tous ces noms associés au chocolat qui désormais est très largement commercialisé, très largement accessible à tous d'ailleurs. Le XXe siècle, c'est vraiment le siècle où le chocolat entre dans toutes les maisons, en tout cas en ce qui concerne bien sûr l'Europe. Mais ça reste quand même un produit pour pays riches.
Alors ça dépend à quel moment du XXe siècle on parle. Oui, au début du XXe siècle, on est encore dans une logique où ce sont les Européens. D'abord, c'est pas simplement une question de moyens, parce que le chocolat est devenu un produit pas très cher au début du XXe siècle, grâce à l'industrialisation de sa production. Mais c'est une question de goût, essentiellement. Alors il va se combiner à beaucoup de choses. Il reste le chocolat soluble qui permet le chocolat chaud des bols, qui devient le récipient des enfants du matin. Il y a le chocolat en tablette, qui lui aussi, en particulier, sert au goûter des enfants, mais enfin, est utilisé aussi par les adultes. Et il y a les chocolats et les friandises qui se multiplient. C'est là, à ce moment-là, où le chocolat va être associé à des fêtes plus particulières. Les œufs de chocolat qui remplacent les œufs, les vrais œufs qu'on offrait pour Pâques, avec l'idée du renouveau. Les poissons également. Les chocolats de Noël qu'on va offrir à ce moment-là également. Donc, vous avez
un marché.
Voilà, mais un marché. On ne cesse d'ailleurs d'innover dans ce domaine. Ça, le commerce n'a pas de limite. Par exemple, c'est depuis seulement une vingtaine d'années tout au plus, donc plutôt au XXIe siècle, que l'on offre des cœurs en chocolat pour la Saint-Valentin. Donc,
vous pouvez décliner voilà, infiniment.
On n'a pas de raison de s'arrêter. Alors, ce qui me semble peut-être frappant sur le XXe siècle, c'est que le chocolat, qui au départ était quelque chose de moins en moins cher, et devenait une pratique assez populaire, y compris avec des chocolats pas très chers. Par exemple, les petites barres de chocolat qui sont mises dans des viennoiseries, on invente ça à la fin du XIXe siècle. Qu'est le pain au chocolat, les petits pains au chocolat. C'est quelque chose qui, effectivement, se massifie, la consommation de chocolat, va, à la fin du XXe siècle, connaître une montée, au contraire, en gamme, va devenir un produit qui peut être un produit de grand luxe, comme le vin, d'abord, on a là cette fois-ci une boisson typiquement européenne, et comme le thé, qui connaît maintenant une pratique qui n'est plus simplement le breakfast tea du matin, comme le café aussi, qui était le café courant où on ne se posait pas trop de questions sur les crus. Maintenant, les crus de thé, de café et de chocolat, des crus de chocolat, prennent de l'importance.
On propose des gammes.
Voilà, vous avez des gammes de chocolat, des types de chocolat, des combinaisons extrêmement subtiles, car le chocolat, plus que le thé ou le café, se combine extrêmement bien avec du salé, du sucré, du poivre, du piment, mais aussi du gingembre. Enfin bon, vous avez des combinaisons extrêmement complexes que déclinaient les bonbons au chocolat, les petits chocolats qu'on offrait en boîte et qui, il y a encore pas très longtemps, se limitaient à la truffe, au praliné. Enfin, il y avait une déclinaison relativement limitée. Aujourd'hui, l'imagination est sans limite et beaucoup de chocolatiers, enfin, peut-être pas, je vais pas faire des listes, faire trop de publicité, mais beaucoup de chocolatiers sont imaginatifs au possible là-dedans. Ils font dans des emballages extrêmement luxueux des chocolats fort chers d'ailleurs qui ressemblent à des produits qui ne sont d'ailleurs des produits de luxe.
Je suis fou du chocolat l'envers.
Il y a même des salons du chocolat.
Oui, bien sûr, des salons dans lesquels on peut déguster, associer, combiner, voir comment le chocolat peut rentrer dans beaucoup de recettes, par exemple. Donc, vous avez une diffusion du chocolat. Ce n'est pas sans une extension de l'industrialisation du chocolat. Parce que en amont des chocolateries de grand luxe, qui sont un peu comme des grands couturiers, bon, derrière le grand couturier, il y a l'industrie textile. Derrière le chocolatier, il y a des grandes entreprises. Et derrière les chocolatiers les plus fameux, vous avez des grossistes, en fait. Hein. Le principal grossiste étant Barry Caibo, qui est une association de plusieurs entreprises, hein, qui est de nationalité suisse aujourd'hui, mais qui en fait est l'association d'une entreprise d'origine belge, Caibo, qui était une brasserie à l'origine en 1850, et puis qui est devenue en 1911 une chocolaterie. Et puis le français Barry, qui est originaire du bassin parisien, c'était une chocolaterie pour alimenter Paris, qui est fondée en 1848, et qui se spécialise dans le chocolat pour les chocolatiers. C'est-à-dire que vous n'avez pas sous la marque Barry Caibo aujourd'hui, vous avez aucun produit. Il y en a qui sont directement propriétés de l'entreprise et que nous connaissons tous. Hein. Par exemple, le chocolat à Côte d'Or ou les glaces Magnum. Mais vous avez aussi derrière tous les chocolatiers connus dont il est le fournisseur, parce qu'il y a toute la gamme des chocolats, y compris des chocolats de couverture. Les couvertures étant toujours les chocolats les plus fins. Les couvertures, donc des chocolats de très grand luxe et de grand prix.
La matière première continue, elle, d'être produite et d'approvisionner le marché avec, vous l'avez souligné, pour le XVIIIe siècle, une forme de spéculation. C'est toujours vrai aujourd'hui ?
Ah, c'est très spéculatif, le cacao. Alors, il ne faut pas oublier que, comme beaucoup de produits tropicaux, le plus connu, c'est le caoutchouc, et ça, c'était d'abord la canne à sucre avec la betterave sucrière, il y a ce qu'on appelle des substitutions, parce que les économistes appellent ainsi. C'est-à-dire que des produits autres, qui peuvent être agricoles, comme la betterave, mais souvent industriels, comme le caoutchouc synthétique, peuvent concurrencer le produit naturel. Donc, le chocolat est concurrencé par des arômes chocolatés que l'on sait très bien produire industriels. Industriellement et qui reproduisent à la perfection le goût, l'odeur, la saveur du chocolat. Sans nuance, évidemment, c'est des produits très standards, mais le chocolat de base, le chocolat élémentaire, peut être produit sans cacaoyer à l'origine. C'est quelque chose qui est à la base en particulier des boissons au goût chocolaté, en général, qui on ne va pas dire comme le chocolat chaud, que l'on trouve dans les distributeurs automatiques.
On a souligné à plusieurs reprises le chocolat considéré comme un aliment qui apporte un certain bien-être. Aujourd'hui, ça ne se dément pas. Les vertus du chocolat ne cessent d'être mises en valeur dans les revues en tout genre.
Oh, vous avez beaucoup de médecins qui prônent le chocolat. Et c'est effectivement une boisson ou une nourriture solide qui donne beaucoup de composantes euphorisantes qui permettent d'entrer dans un équilibre alimentaire tout à fait sain, à condition évidemment de ne pas en abuser et de ne pas prendre des chocolats trop sucrés. Ce qui veut dire des chocolats de qualité. D'abord du vrai chocolat, pas du synthétique. Ensuite, des chocolats où le sucre est faible et où la composante du chocolat est plus forte que la composante de beurre de cacao, qui est gras. Et donc, vous avez là des éléments qui, effectivement, sont tout à fait recommandables à dose modeste, sachant que, comme toute petite drogue, le chocolat est une petite drogue, il peut, en quantité colossale, être dangereux. Par exemple, si un chat absorbait plusieurs centaines de grammes de chocolat. Mais bon, on trouve peu d'appétit au chat pour les chocolats. Mais un petit chien qui trouverait du chocolat sucré et pourrait le croquer, là, ce serait plus probable, il pourrait très très bien se retrouver dans le coma.
À cause du sucre
Le sucre, oui, l'abus de sucre n'est pas bon, mais ça ne lui donnerait pas un choc immédiat, mais à cause de la théobromine qui est dans le chocolat, que le corps humain peut réguler, mais là, pourrait avoir des effets sur le système cardiaque du chien.
Écoutez bien mon histoire, c'est l'histoire d'un gourmand qui n'a jamais voulu croire ses parents. Quand il lui disait « Prends garde à en manger comme ça, tu te transformes, regarde, en chocolat. » Car il descendait facile, quatre tablettes à la file pour commencer la journée. Tout ce qu'il mangeait ensuite, y compris le beefsteak frites, tout était chocolaté. Oh, oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre. Ah, ah, ouvre-la, ta grande bouche en chocolat pour nous répondre.
La suite de l'histoire.
Globalement, la consommation se maintient. A tendance à augmenter.
Elle augmente. Le chocolat augmente. Il augmente très lentement, évidemment, dans les vieux pays développés, l'Europe et les États-Unis. Il a beaucoup gagné, mais ça, c'est déjà un phénomène ancien, le Japon. Aujourd'hui, la première firme mondiale est une firme états-unienne, mais les deux suivantes sont des firmes européennes, c'est Nutella et Nestlé. Et la quatrième, donc, est japonaise. Fuji, Yoko. Vous avez là une concentration dans ce qu'on appelle parfois la triade, c'est-à-dire les vieux pays industrialisés. Aujourd'hui, le grand front pionnier de la consommation du chocolat, c'est la Chine. Les Chinois se mettent, comme ils se mettent à boire du vin, à boire du café, ce qui dans le pays du thé est un paradoxe, ils se mettent massivement à manger plus que boire du chocolat.
Est-ce que les comportements, notamment dans les pays occidentaux, vous parliez du petit déjeuner qui, semble-t-il, tendrait à disparaître, est-ce que ça a un impact?
Oui, alors le petit déjeuner, d'abord oui, il tend peu à disparaître. En France en particulier, on résiste, 80% des Français prennent un petit déjeuner classique. Mais c'est vrai que dans l'ensemble du monde occidental, les pratiques de type brunch, de type consommation de lait où il n'y a pas de vache à l'origine, le lait d'amande par exemple, qui n'est pas du lait donc, vous avez là des évolutions du repas matinal qui changent les choses. Donc il y a deux choses qui vont jouer un peu contre le chocolat du matin, c'est le fait que ça soit bien cadré depuis la fin du 19e siècle comme la boisson des enfants. Donc la boisson du Banania ou du Nesquik, qui est un produit Nestlé apparu avec le développement des supermarchés dans les années 50, ça a été vraiment connoté pour l'enfance, ce qui fait que beaucoup d'adolescents depuis 20 ans s'en détournent assez vite dès qu'ils peuvent de cette boisson du matin. Puis il y a une deuxième offensive qui est celle de ce qu'on appelle parfois le locavorisme, c'est-à-dire manger local, manger à moins de 250 km. Or là, prendre un aliment, une boisson qui vient de l'outre-mer, qui vient nécessairement des tropiques, il est évident que dans les pays tempérés, ça paraît comme peu écologique. Donc on va le remplacer éventuellement par des tisanes pour le petit déjeuner, par de la menthe ou du sureau, enfin pour d'autres choses, et parfois aussi par des choses qui viennent de loin sans qu'on y pense, comme du lait d'amande, puisque ça vient fondamentalement de Californie.
Enfin, il faut imaginer que le chocolat a encore de beaux jours devant lui.
Oh, de très beaux jours, il n'y a aucun problème. Manger du chocolat.
Merci beaucoup Christian Grataloup d'être venu nous raconter cette histoire du chocolat dont on peut évidemment retrouver l'essentiel dans le livre que vous publiez chez Armand Collin. Ça s'appelle « Le monde dans nos tasses, 3 siècles de petit déjeuner ». Merci beaucoup encore.